Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaine nouvelle ?
Nouvelle vilaine.
Vilaine nouvelle.
Nouvelle vilaine. Nouvelle vilaine. Vilaine nouvelle. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, aujourd'hui, ce sera une émission Nouvelle vilaine histoire. Consacré à l'histoire avec un grand H. Alors j'avais fait la première de cette série la semaine dernière, et puis effectivement elle n'était pas très longue, mais c'est parce que moi j'ai le défaut de pas bien bien préparer, donc je m'étais pas bien rendu compte de ce que ça prenait comme temps que de vous lire ces vilaines histoires de l'histoire. Donc, cette semaine, on va se balader dans l'histoire. Je vais tout d'abord vous lire un texte qui va nous emmener en 1931 aux États-Unis. Et puis, dans la deuxième partie, nous rapprocherons de notre époque actuelle. Mais vous verrez. Pour l'instant, 1931, les États-Unis. Deux ans après le crash de 1929, des millions d'Américains sont privés d'emploi et jetés à la rue. Ils commencent alors à s'organiser pour survivre et lutter. Les chômeurs vont jouer un rôle majeur dans un épisode méconnu de l'histoire sociale des États-Unis. Une bataille contre les fauteurs de crise, avec l'appui décisif des communistes américains. Taxez les riches, nourrissez les pauvres, crie-t-on dans les manifestations. Certains parmi les plus faibles, selon la loi de la nature, mourront naturellement sous la pression des temps actuels. D'autres ne perpétueront pas leur espèce. Les forts et les robustes survivront et se reproduiront, et ainsi la race humaine sera renforcée. C'est en ces termes qu'un biologiste de l'établissement scientifique américain, professeur à Princeton, Edwin Grant Coldling, par ailleurs l'un des référaires de l'eugénisme social états-unien, par référence au rêve américain, s'exprimait le 28 janvier 1932 dans le New York Times. Aujourd'hui, nous, en Amérique, nous sommes plus près que jamais dans l'histoire de n'importe quel pays du triomphe final sur la pauvreté, avait proclamé le 11 août 1928 le président Hoover. J'ai commencé à voir qu'il se passait quelque chose quand nous rentrions de l'école le soir et que ma mère nous envoyait à la soupe populaire. Je me souviens qu'une fois, la seule chose qu'il y avait à manger à la maison, c'était de la moutarde.
Ça, c'est dont se souvient une Américaine moyenne.
La Grande Dépression a officiellement débuté avec le crash de la bourse de New York le 29 octobre 1929. Éclatement de la bulle spéculative, faillite de centaines de banques, assèchement du crédit aux entreprises, doublé d'une formidable surproduction, chute de la consommation. Tout cela a provoqué une explosive accélération du chômage, a provoqué aussi la généralisation de la misère absolue dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Rien qu'au cours de l'année 1931, 2290 banques, avec un dépôt total de 1750 milliards de dollars, disparaissent. les 2 milliards de dollars injectés par l'administration Howard se sont perdus dans les coffres des plus riches. Dans le même temps, et l'on oublie trop souvent d'en faire état, durant les 9 premiers mois de 1930, les investisseurs ont perçu 432 millions de dollars de plus qu'en 1929 sous forme de dividendes et 191 millions de dollars de plus d'intérêts. En 1931, par rapport aux 9 premiers mois de 1929, donc avant le crack, ces hausses ont été respectivement de 347 millions et de 338 millions de dollars. Le journal The Nation indique que pendant la même période, rien qu'à Détroit, 50 000 ouvriers ont perdu toutes leurs économies. En janvier 1931 déjà, le New York Journal révèle que plus de 198 000 familles ouvrières new-yorkaises avaient été jetées à la rue pour non-paiement de leur loyer. Le chômage, qui frappe 9% de la population active en 1930, grimpe à 25% en 1933. 1933, année de la prise de fonction du président Roosevelt. Et l'on compte officiellement 2 millions de familles sans abri déclaré. De 1923 à 1928, il a fallu 200 000 travailleurs de moins pour produire 42% de plus dans le secteur industriel. Dans l'automobile, la productivité a été augmentée de 210% de 1914 à 1925. À la veille du crack, la capacité de production dans ce domaine était de 10 millions de voitures, mais la production n'a été que de 4,5 millions d'unités en 1929. Ce qui n'empêche pas le patron de General Motors de déclarer en janvier 1932 « Avec le réajustement et les perfectionnements en cours, notre machine industrielle est plus efficace, plus performante qu'elle ne l'a jamais été auparavant. » D'ailleurs, le 8 mars 1930, le président Howard a déjà affirmé « La dépression prendra fin dans les 60 jours. » En 1932, le système bancaire de dépôt s'effondre, tandis que des villes comme New York, Chicago, Philadelphie, Détroit sont en faillite, comme des centaines de villes moyennes. Mais ce n'est sans doute pas un hasard si, dans le même temps, l'immobilier d'affaires connaît une marche triomphale. Le 1er mai 1931, on inaugure à New York l'Empire State Building. Cet immeuble de bureau de 381 mètres de haut restera à moitié vide jusqu'en 1939. Après, on inaugure le Chrysler Building, qui fait 319 mètres, qui datait, lui, de 1930. Et jusqu'en 1934, 6 tours de plus de 200 mètres de haut, hein, sont construites à New York. Dans le même temps, les patrons de l'industrie procèdent à une effroyable baisse des salaires, en moyenne de 40 à 50%, après le signal donné par US Steel, diminuant de plus de 10% les salaires de ses ouvriers à partir du 1er octobre 1931. Dans les campagnes, la situation devient encore plus catastrophique. La chute de 60% des prix agricoles étant doublée par l'érosion des terres du fait d'une agriculture extensive non maîtrisée et de la sécheresse qui provoque, à partir de 1930, d'énormes tempêtes de poussière. Le Dust Bowl a par exemple balayé les surfaces fertiles de plus de 400 000 km² au Texas, dans l'Oklahoma et autour du Nouveau-Mexique, du Colorado et du Kansas. Des centaines de milliers de familles d'agriculteurs ont ainsi fui, notamment en Californie. Ne possédant pas de terre, nombre de ces fermiers sont devenus des travailleurs saisonniers, migrants, voyageant de ferme en ferme, souvent à pied ou encore clandestinement dans des trains de marchandises, à la recherche d'un travail et pour un salaire de misère. Pour comprendre les terribles difficultés auxquelles sont confrontées ces dizaines de millions de victimes de la crise, on doit se reporter aux conditions dans lesquelles les salariés vivent et luttent. La crise n'est pas tombée comme un ouragan sur un paysage serein. Les luttes sociales n'ont pas cessé depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale dans le contexte d'une classe ouvrière en difficile formation. Le patronat sauvage joue à la fois sur les différences d'origine des vagues d'immigrants successives, montant par exemple les Italiens contre les Irlandais, sur l'idéologie individualiste qui veut qu'en Amérique, tout est possible si l'on travaille pour gagner de l'argent. Et jouant aussi sur le syndicalisme corporatif pratiqué par l'American Federation of Labor, fractionnant les salariés en catégories professionnelles. Et pour encore accroître l'aliénation, les Noirs, dernier maillon de la chaîne de l'exploitation, sont utilisés comme travailleurs d'un point et souvent comme briseurs de grève. D'autant plus que les organisations de l'AFL leur sont fermées. Le racisme ambiant est entretenu par les médias et la grande majorité des prescripteurs politiques ou moraux comme les églises. Briseur de grève était devenu un véritable métier pour nombre de chômeurs. Et pourtant, dans ce climat d'aliénation et de violence souvent sanglante, des luttes ont eu lieu. Tant était devenue insupportable la misère et le mépris. Et la plupart du temps, ce sont des communistes qui font naître et animent ces combats. Ils étaient peu nombreux, environ 15 000 membres du CPUSA, auxquels en 1930 s'ajoutent 5 000 adhérents de la Ligue des jeunes communistes. En revanche, ils sont des organisateurs des révoltes. Leur syndicat, la Trade Union Education League, environ 100 000 membres en 1931, fondé en 1920 par William Foster, qui était responsable du parti au début de la Grande Dépression, est à l'origine de la création de centaines de conseils de chômeurs. Dans les quartiers et autour des usines, ils organisent des sociétés d'entraide. Plus de 330 sociétés d'entraide dans 37 États en 1932. Société d'entraîne où, dans la totale démocratie participative, fonctionnent aussi bien des distributions de vivres que de véritables commandos pour réinstaller dans leur foyer des familles expulsées. Ce sont eux aussi qui viennent au secours des neufs de Scottsboro, des gamins noirs, accusés à tort de viol, qui ne sortiront de prison que plusieurs années plus tard. C'est eux encore qui lancent les marches de la faim. En 2 ans, plus de 1,5 million de personnes ont été ainsi mobilisées. En mars 1930, 35 000 affamés défilent dans les rues de New York pour réclamer du pain. Le 6 novembre 1931, plus d'un millier de délégués, dont d'anciens combattants, se retrouvent à Washington et marchent sur le Capitole. Nous avons combattu pour les capitalistes pendant la dernière guerre. Nous ferons la prochaine guerre pour les travailleurs, pouvait-on lire sur l'une de leurs banderoles. Le Congrès, comme le président Auer ayant refusé de le savoir, les marcheurs se replient en chantant l'international, tandis que nombre d'entre eux sont arrêtés et tabassés par la police. En juin 1932, des milliers d'anciens combattants venant de tout le pays marchent sur Washington pour réclamer le paiement anticipé d'une prime dont le versement est prévu pour 1945 et s'installent dans un campement de fortune dont ils sont chassés par l'armée menée par les officiers Eisenhower et Patton sous la direction du général MacArthur. Au début de décembre 1932, 3000 délégués participèrent à une deuxième marche sur Washington. C'est à Détroit que fut lancée l'une des marches de la faim les plus remarquables. Le 7 mars 1932, plus de 5000 travailleurs marchent vers la plus grande usine Ford, la Ford River Rouge Complex à Dearborn. La marche est organisée par le Conseil des sans-emploi de Détroit. Les marcheurs voulaient rencontrer Henry Ford pour exiger la réintégration des ouvriers licenciés, une couverture de santé, la fin des discriminations raciales, des secours divers, la dissolution des milices d'entreprise et la liberté de se syndiquer. « Nous voulons du travail, du pain et non des miettes. Taxez les riches, nourrissez les pauvres !» scandaient les manifestants, alors arrivés à Dearborn. Les manifestants sont attaqués par la police à coups de matraque. Un policier tire dans la foule, tandis que deux voitures de pompiers actionnent les lances à incendie. Alors que les marcheurs faisaient demi-tour, des nervis de Ford, aidés par des policiers, tirent avec des pistolets mitrailleurs et tuent 4 adolescents, dont un gamin de 15 ans, tous membres de la Ligue des jeunes communistes. Tous ces soulèvements et de nombreuses grèves se poursuivent et se renforcent jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, alors que le pays s'enfonce dans la crise malgré les premiers résultats du New Deal lancé par Roosevelt à partir de 1933. La préoccupation de ce dernier n'était pas tant d'améliorer les conditions de vie des salariés que de restaurer et de réorganiser le système capitaliste en relançant la production et en stabilisant la situation sociale par des concessions telles que l'instauration du droit à la négociation collective dans les entreprises. Cité par le journal Liberty du 30 janvier 1932, le général William Mitchell déclare « Nombreux sont les pays qui estiment qu'en ces temps, une guerre étrangère leur ferait beaucoup plus de bien que l'insurrection ou la révolution intérieure. » Il est un fait que malgré la poursuite de nombreux mouvements sociaux, l'instauration de l'économie de guerre aux États-Unis a permis la création de millions d'emplois, assurant ainsi une sortie temporaire de crise qui sera renforcée par la relance des échanges au lendemain de la guerre, au profit du seul grand pays à n'avoir pas été frappé par le conflit mondial. Et pour cela, il fallait porter un coup décisif aux forces progressistes, et notamment aux communistes. Le décret exécutif 9835, ouvrant la chasse aux éléments déloyaux, est signé le 22 mars 1947 par le président Truman. Entre mars 1947 et décembre 1952, près de 7 millions d'Américains ont été interrogés par les FBI et les diverses agences de répression des activités anti-américaines. Et ben voilà, c'était ce qui s'est passé aux États-Unis en 1932, et puis une petite ouverture vers la suite.
Pourquoi je vous raconte toutes ces histoires sur l'histoire? Tout simplement parce que je crois que quand on ne connaît pas l'histoire, eh bien, on recommence les mêmes erreurs. Et que, c'est peut-être une impression que j'ai, mais il me semble quand même que la crise que nous vivons à l'heure actuelle a une certaine ressemblance avec celle des années 30, et ce serait bien bête d'en arriver au même résultat si nous n'y faisons pas attention. Voilà, nous allons maintenant avancer un petit peu dans le temps, et nous allons avancer jusqu'en 1971, où il s'est passé un truc étonnant. C'est ce qu'on a appelé le manifeste des 343 salopes. Eh oui, 343 salopes. C'est l'appellation que leur a donnée Charlie Hebdo. Mais en fait, ces femmes, parmi lesquelles se trouvaient Simone de Beauvoir, Marie-France Pissier, Marina Vladi, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, Delphine Seyrig, Catherine Deneuve, Agnès Varda, Bulogier, Micheline Prel, Christine Rochefort, Daniel Lebrun, Violette Leduc, Bernadette Lafont, Brigitte Fontaine, Nadine Trintignant, Marguerite Duras, Françoise Fabian, Ariane Nouchkine, Tina Aumont et un tas d'autres, beaucoup moins connus, ont signé un manifeste rédigé par Simone de Beauvoir qui fera la une du Nouvel Observateur le 5 avril 1971. Dans ce manifeste, elles ont eu tout le courage de braver la loi qui punit de 6 mois à 3 ans de prison l'avortement. Et ont déclaré qu'elles avaient... qu'elles avaient pas respecté la loi. Ouais, ouais, qu'elles s'étaient fait avorter. Et oui, le 5 avril 1971, à la une du Nouvel Observateur, eh bien, cette une fait l'effet d'une bombe. La liste des 343 Françaises qui ont eu le courage de dire « Je me suis fait avorter ». Des personnalités, hein, parmi toutes celles que je vous ai citées tout à l'heure, s'associent à ce manifeste qui affirme « 1 million de femmes se font avorter chaque année en France ». Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Rebaptisé par Cabu dans le journal satirique Charlie Hebdo, l'appel des 43 salopes, 343, je bafouille aujourd'hui moi, l'appel des 343 salopes se manifeste appelant à la désobéissance civile et porté par des personnalités du monde artistique et intellectuel, marque une étape décisive vers le droit à l'IVG. Au même titre que le procès de Bobigny, il contribuera à faire basculer l'opinion en faveur de cette lutte exemplaire, indissociable de celle pour le droit à la contraception. Au moment où sort le manifeste, une brèche a déjà été ouverte quelques mois auparavant avec la proposition de loi Perret, prévoyant un assouplissement des conditions de l'avortement thérapeutique. Le 28 décembre 1967, l'Assemblée nationale a déjà adopté la loi proposée par le député Lucien Neuwirth qui autorise la contraception. Pour gagner le rapport des forces sur ces débats houleux à l'Assemblée, Neuwirth se fait fort de ne pas lier contraception et avortement. La loi autorise donc la contraception, mais celle-ci n'est pas remboursée par la Sécurité sociale et sa promotion est interdite. En 1971, seuls 6% des femmes prennent la pilule. Elles sont près de 400 000 à avoir recours à l'avortement clandestin. Les plus riches partent en Grande-Bretagne ou en Suisse, trouvent un médecin qui, moyennant finance, pratique l'IVG dans des conditions décentes. Pour les autres, c'est le parcours du combattant, avec son lot d'humiliation et de souffrance. C'est le curetage à vif, pratiqué par les faiseuses d'anges, les aiguilles à tricoter ou les pastilles d'eau de Javel. Beaucoup y perdent leur fécondité et dans un cas sur mille, la vie. Depuis 1968, où prône l'amour libre sans en avoir les moyens, l'horreur des avortements clandestins commence à se dévoiler. Notamment grâce au mouvement de libération des femmes, le MLF, qui, au-delà du droit à l'IVG, lutte pour le droit d'être femme sans être mère. Répondre au scandale par le scandale, elles l'ont déjà fait une première fois en août 1970 en déposant une gerbe à la mémoire de la femme du soldat inconnu, ou avec le célèbre lancer de Moudveau lors des états généraux de la femme du magazine Elle. L'avortement n'étant pas au programme de la journée, elle distribue un questionnaire. Quand vous êtes enceinte et que vous ne voulez pas garder votre enfant, préférez-vous les aiguilles à tricoter, la branche de vigne, le fil de fer barbelé, le cuivre, le laiton ? Mais en face, on ne fait pas non plus dans la dentelle. À l'occasion de la proposition de la loi Perret, une centaine de personnalités dénoncent cette tentative de légalisation du meurtre, premier pas dans la voie de l'extermination idéologique qui, après des bébés mal aimés, prendra pour cible les infirmes et les impotents, les débiles mentaux et les clochards. Alors, au MLF, on renchérit, et pas toujours dans la finesse. On aborde la maternité comme un esclavage, la grossesse comme une tumeur. Jamais débat politique n'aura été aussi violent que sur l'avortement, y compris jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale, où la députée Simone Veil fera voter la loi de 1974 sous une pluie d'injures. En 1971, selon les sondages de l'époque, 2/3 des femmes sont favorables à l'avortement. Reste à convaincre l'autre moitié de l'humanité. Celle qui fait les lois. Dans ce contexte, le manifeste des 343 salopes est d'abord un coup éditorial, témoin d'une presse qui s'assume en outil majeur de la vie politique. Car cette initiative courageuse de 343 femmes est aussi celle d'un homme, Jean Moreau. Chef de la documentation au Nouvel Observateur, militant cégétiste et proche de Sartre, l'idée lui vient de ce coup médiatique. Il rencontre des militantes du MLF divisées sur le sujet. Certaines y voient une manipulation de la presse bourgeoise. D'autres vont tester l'idée chez la féministe de l'époque, Simone de Beauvoir, qui, convaincue de la portée politique de l'initiative, rédigera le manifeste. La petite histoire veut qu'une autre version, incluant les hommes, commençant par « Je déclare avoir été complice de l'avortement d'une femme », ait été signée par François Truffaut et Samy Frey. Mais c'est Beauvoir, Simone, qui aura le dernier mot, avec ce texte aussi sec qu'efficace. La récolte des signatures peut commencer. Les langues se délient. Les femmes se confient, témoignent de leur douleur, celle de leurs sœurs, leurs voisines. Chez les personnalités aussi, tout se précipite.
Christiane Rochefort, chargée des relations publiques au Festival de Cannes, sort son carnet d'adresses. Françoise Savian, Micheline Prel, Marguerite Duras, Delphine Seyrig, Bulle Ogier, Catherine Deneuve, Françoise Sagan, Jeanne Moreau, Marie-France Pissier. Rien que ça. L'idée de solliciter des stars ne fait pas l'unanimité pourtant. Trop bourgeoise pour le MLF. Jeanne Moreau les convainc au final de l'intérêt de l'engagement de ces célébrités qui interpelleront le grand public et pourront parler sans être poursuivies par la justice. Indépendamment de son importance dans les luttes féministes pour le droit à l'IGV, cet appel frappe l'opinion pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en 1971, malgré le mouvement de mai 68, les appels à la désobéissance civile ne sont pas si nombreux. Ensuite, parce qu'il est exclusivement féminin et qu'il s'énonce en forme d'aveu. Je déclare avoir avorté sur un sujet régi par des articles du Code pénal. Et enfin, parce qu'il touche ce qu'il y a de plus intime chez la femme, comme chez l'homme, la sexualité et la reproduction. Si Jeanne Moreau est à l'initiative de l'appel, le MLF hésite pourtant longuement sur le journal à qui confier le soin de porter la bataille, considérant le Nouvel Observateur trop caviar. On parle du Monde, de France Soir, et après des heures de négociations avec les militantes, le directeur de l'Obs leur concède, en plus du manifeste, une tribune d'une page qu'elles intitulent « Notre vente nous appartient ». On peut y lire « Chaque année, 1 500 000 femmes vivent dans la honte et le désespoir. 5 000 d'entre nous meurent, mais l'ordre moral n'en est pas bousculé. On voudrait crier. La complexité des émotions liées à la lutte pour l'avortement indique avec précision notre difficulté d'être. Le mal que nous avons à nous persuader que cela vaut le coup de se battre pour nous. Il va de soi que nous n'avons pas, comme les autres êtres humains, le droit de disposer de notre corps. Et pourtant, notre ventre nous appartient. » Elle signe également, dans ce même numéro, un texte moins connu, pourtant haut en couleur. Les 10 commandements de l'État bourgeois. Fœtus, plutôt qu'être humain, tu choisiras quand cet être humain est femelle. Femme, point n'avortera tant que Debré réclamera 100 millions de Français. 100 millions de Français, tu auras tant que cela ne te coûte rien. Particulièrement sévère sera avec les femelles pauvres, ce ne pouvant aller en Angleterre. Fœtus, tu préserveras. Car plus intéressant de les tuer à 18 ans, âge de la conscription. Grand besoin tu en auras, car politique impérialiste tu poursuivras. Toi-même, contraception utilisera pour envoyer rares enfants à Polytechnique ou à l'ENA, parce que qu'appartenant 10 pièces seulement. Quant aux autres, pilules tu dénigreras, car il ne manquerait plus que ça. Autant dire que la une du 5 avril fait parler dans les chaumières. Un verrou a sauté. Avant sa sortie en kiosque, les radios ne parlent plus que de cet événement. « Une date », titre Le Monde, quand les réactionnaires de tous bords montent au créneau au travers de tribunes nauséeuses. 252 médecins signent simultanément une pétition soutenant la légalisation de l'avortement. Certains d'entre eux commencent à reconnaître publiquement leur pratique de l'IVG. Au Nouvel Obs, le standard est saturé. Les signatures affluent en nombre, malgré les risques de poursuite. Car la législation française punit alors l'avortement ou sa tentative d'une peine de 6 mois à 2 ans de prison, dans un délai maximal de 3 ans à partir de l'acte. Elle condamne également la propagande en faveur de l'avortement. Mais aucune des signataires n'est inquiétée, car l'une d'elles veille au grain. C'est l'avocate Gisèle Halimi qui fonde avec Simone de Beauvoir l'association Choisir. Déjà connue des milieux féministes pour avoir défendu une jeune fille violée par les paras pendant la guerre d'Algérie, elle fait basculer l'opinion et la législation l'année suivante, avec le procès de Bobigny. Violée par un garçon de son lycée, Marie-Claire, 16 ans, refuse de poursuivre cette grossesse et demande à sa mère de l'aider. Celle-ci, employée modeste, élève seule ses trois filles et sollicite ses collègues afin de trouver une solution à moindre coût. Après les dénonciations du violeur, les trois femmes et la jeune fille sont inculpées. Gisèle Halimi décide d'en faire un procès politique sur l'avortement. Les règles d'or des procès de principe, s'adresser par-dessus la tête des magistrats à l'opinion publique tout entière, au pays. Pour cela, organiser une démonstration de synthèse, dépasser les faits eux-mêmes, faire le procès d'une loi, d'un système, d'une politique. Transformer les débats en tribune publique, explique l'avocate. Le jour de l'audience, le 8 novembre 1972, des militantes et des personnalités comme Jean Rostand et Aimé Césaire se pressent devant le palais de justice pour soutenir la plaidoirie passionnée de l'avocate, qui fait alors valoir que désobéir à une loi inique, c'est faire avancer la démocratie. Elle interpelle le juge. Regardez-vous, messieurs, et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant des hommes. Pour parler de quoi ? D'utérus, de grossesse, d'avortement. Ne croyez-vous pas que l'injustice fondamentale soit déjà là ? Sa plaidoirie est d'une telle intelligence que le procureur interdit la publication des débats. La clémence du verdict est prometteuse sur le plan de la jurisprudence. Le combat politique est gagné, reste la bataille législative. Et c'est Simone Veil, ministre de la Santé de Giscard, qui en 1974 présente le projet de loi, ajourné de nombreuses reprises, légalisant l'IVG devant l'Assemblée nationale. Les députés de son propre camp s'en donnent à cœur joie. Des pressions de fanatiques qui refusent de délivrer le permis de tuer s'exercent sur les élus. Mais portée par la mobilisation citoyenne, la loi est finalement votée pour 5 ans à titre expérimental. 40 ans après, un nouvel appel des filles des 343 salopes vient d'être lancé, qui réclame des moyens pour que le droit à l'IVG soit enfin respecté, notamment son accès inconditionnel et gratuit.
Ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Les dégâts, les excès, ils vont vous les faire payer. Les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimpronel et Nicolas, vous nous endormez comme ça. Le marchand de sable est passé, nous on garde un œil éveillé. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille, toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse. Sinon on tourne la vis, nous on n'a rien à gagner, mais on ne peut plus perdre puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti, tout est faux. Oh mon ami, oh mon frère, tout sonneur perdu pour la guerre, tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux, des papiers, dis tu l'as vu mon palais, où t'auras rien. C'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants, le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité, enfin il y a tout ce que vous aimez, vous et moi on le sait. Le spectacle est terminé, pourtant c'était presque idéal, c'était loin du féodal. Oh maintenant c'est foutu, ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal, Dieu n'est pas dans la bataille. Oh messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous l'iris, sous la peau, sous les ongles et dans les tours, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. Jamais des gagnants ni des perdants.